jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité François Bayrou, président du Modem. Le débat est dirigé par Jean-Michel Apathy.
Bonsoir, bienvenue dans le grand studio d'RTL pour cette nouvelle édition du grand jury. Vous en êtes l'invité, François Bayrou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous répondrez aux questions d'Étienne Moujot du Figaro et d'Éric Revel d'LCI. Le congrès de Reims du Parti Socialiste s'est donc terminé aujourd'hui. Il n'y a pas de ligne politique. Quant au dirigeant de ce parti, il sera élu à la fin de la semaine. Trois personnalités vont soumettre leur candidature aux militants. Il s'agit de Ségolène Royal, Martine Aubry et Benoît Hamon. Nous allons regarder dans le détail avec vous, François Bayrou, ce congrès, puisque il semble que pour une part, la question de l'alliance ou pas avec le Modem a été au centre des débats et a peut-être fini par empêcher les socialistes de trouver un accord entre eux. Mais avant d'évoquer ces points précis, peut-être serait-il intéressant de vous entendre de manière générale sur ce que vous pensez, comment vous regardez ce Parti Socialiste après ce congrès qui s'achève donc dans les conditions que j'ai décrites.
Si on a le choix des adjectifs selon qu'on est proche ou lointain du Parti Socialiste, c'est entre tragi-comique et désespérant. Selon qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. C'est aussi le choix entre ces adjectifs selon qu'on a le souvenir de ce que le Parti Socialiste a été ou est pour des millions de Français. Et c'est à cela que pour moi je m'attache. Il y a beaucoup de gens qui y ont cru, y croyaient. Et qui aujourd'hui découvrent avec stupéfaction que l'organisation à laquelle ils croyaient est égarée et ne réussit pas à trouver son chemin.
Vous êtes surpris par cet épilogue de ce congrès ou alors vous l'aviez anticipé ?
Franchement, si je vous disais que je suis surpris, ça serait pas sérieux. J'ai depuis très longtemps, je crois, analysé quelle était la situation du Parti Socialiste aujourd'hui, sans être donneur de leçons, parce que c'est un grand parti politique français, mais je crois qu'il est au bout d'un cycle. Il y a 37 ans, il y avait un article de journal d'un de vos confrères qui disait, au fond, il y a dans les trois partis politiques français qui apparaissent dans ce débat présidentiel, le Parti Socialiste a 37 ans,
le Modem et le Parti
37 ans, l'UMP a 6 ans, et nous, Mouvement démocrate, Modem, nous avons un an. Pas tout à fait encore un an, on aura un an bientôt. Et c'est pas si facile non plus d'être un parti en création, et je sais qu'il n'est pas facile d'être un parti en fin de cycle, donc je regarde cela simplement avec le sentiment que, à tous les Français qui cherchaient une réponse au congrès du Parti Socialiste, quelle qu'elle soit, à la situation du pays, à son avenir, ceux-là n'ont pas trouvé de réponse, et il y a là sans doute des motifs de réflexion.
Étienne Mongeau.
Alors, pour venir au fond du débat de Reims, Jean-Michel Apathy le disait, l'un des problèmes de fond a été alliance ou pas avec le Modem. Parmi les trois candidats, deux, Martine Aubry et Benoît Hamon, sont contre toute alliance du PS avec le Modem. Ségolène Royal est pour. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes favorable à Ségolène, et vous voteriez Ségolène si vous étiez socialiste.
Eh bien, je ne suis pas membre du Parti Socialiste et n'ai pas l'intention de le devenir. Alors, je voudrais m'arrêter une seconde à ça. Qu'est-ce qu'on dit quand, comme un très grand nombre de leaders du Parti Socialiste, on dit « je refuse d'avoir le moindre contact avec les démocrates français, le Modem des intouchables ». Qu'est-ce qu'on dit ? Ça, c'est de la langue de bois, mais qu'est-ce qu'on dit en français ?
Qu'est-ce que ça veut
Ce
dire ?
Qu'on dit en français, c'est « je choisis que le pouvoir actuel, que Nicolas Sarkozy, reste en fonction pendant 10 ans ». C'est ça qu'on dit. Parce que si vous refusez de rassembler, alors vous choisissez de favoriser ceux dont, apparemment, vous désapprouvez les choix. Et cette option majeure, elle se heurte à la loi, qu'en tout cas moi j'appliquerai, au nom de tous ceux qui pensent qu'il faut changer d'orientation, et la prochaine échéance c'est, s'il n'y a pas d'accident, 3 ans et demi. La loi que j'appliquerai, c'est le rassemblement le plus large possible, la fédération de tous ceux qui veulent que ça change et peuvent se réunir sur un projet, ce que j'espère.
Je ne veux pas traduire la pensée de Martine Aubry ou de Delanoë ou de Benoît Hamon. C'est pas ça qu'ils disent. Ils disent, On ne peut pas s'allier avec le MoDem quand on est un parti de gauche, parce que François Bayrou et le MoDem, sur des sujets essentiels, et notamment économiques et sociaux, et ne bien, sont pas de gauche, mais sont de droite.
J'imagine qu'on voilà va ce qu'ils le voir. Disent. Je comprends très bien qu'il y ait, dans l'opinion française, des gens qui se réjouissent d'un choix partisan, sectaire, fermé, qui favorise le maintien au pouvoir de ceux qui y sont aujourd'hui autour de Nicolas Sarkozy. Je comprends très bien. Mais simplement, je dis que le sentiment de responsabilité de tous ceux, d'où qu'ils viennent, et pour moi, personne n'est disqualifié comme citoyen français parce qu'il a eu des parcours politiques qui n'ont pas toujours été sous la même étiquette. Mais tous ceux qui, d'où qu'ils viennent, acceptant de se fédérer, voudront que dans 3 ans et demi intervienne un changement majeur pour le pays, ceux-là, la fédération de ceux-là est pour moi un devoir. Pas seulement une opportunité, pas seulement de la politique, on s'en fiche. C'est un devoir pour la France. Parce que je vais vous dire quelque chose, dans 10 ans, de l'irrémédiable aura été produit pour la société française, pour la France, pour l'équilibre de la société française. Je crois que si j'énumère devant vous à toute vitesse les décisions qui viennent d'être prises, le travail du dimanche, la retraite à 70 ans, un certain nombre de décisions dans le domaine de l'école, tout ça, ça veut dire que de l'irrémédiable aura été produit. Et vous croyez qu'on va se croiser les bras comme ça, simplement parce que l'étiquette du voisin ne satisfait pas absolument les impératifs, au demeurant, de manière totalement hypocrite.
Éric Revel,
si vous me permettez une seconde de finir avec cette considération, et je suis sûr que vous rebondirez après. Tous ceux qui montent à la tribune pour dire jamais de contact. Ceux-là, ils ont tous dans leur motion, eux-mêmes ou de leurs amis, qui ont fait dans leurs élections locales alliance avec des responsables locaux du MoDem. Et est-ce que ça produit du mal ou du bien pour la société française ? Ça a produit du bien.
Travailler avec la gauche, ça produit du bien.
Ça produit du bien, et travailler avec la droite quand elle est bien, ça produit du bien. Nous avons assumé, je répète devant vous, j'ai voulu que nous soyons capables de nous entendre avec Alain Juppé à Bordeaux, et de nous entendre dans le même temps avec Martine Aubry à Lille.
La seconde est passée.
Pardon ?
Je peux rebondir maintenant.
Allez-y, mais ça valait la peine de le rappeler parce que tout ça.
Alors vous voyez bien. On voit dans les yeux François Bayrou qu'évidemment le fait que le MoDem soit au centre du jeu de ce congrès de Reims ne vous fâche pas, au contraire, hein, vous rend de la lumière et de la joie dans le regard. Mais quand vous appelez de vos voeux un mouvement du côté du Parti socialiste, quand vous voyez qu'il y a 3 motions qui représentent 70% des militants qui ont voté pour un ancrage à gauche du parti socialiste, est-ce que vous êtes certain que ce qui va sortir des urnes le jeudi 20 ou le vendredi pour un éventuel second tour sera un mouvement du Parti socialiste en direction du MoDem ou bien un ancrage du Parti socialiste beaucoup plus à gauche ?
Je vais vous dire, quand ils disent nous n'aurons jamais de contact avec le centre, s'ils étaient comme Pinocchio, avec le nez qui s'allonge chaque fois qu'on ment, il ne pourrait plus entrer dans une pièce parce que le nez toucherait les murs de quelque côté qu'il se tourne. Même si on était dans un amphithéâtre.
Vous dites ça uniquement parce que... par rapport au... Excusez-moi, parce que les traités de menteurs, c'est une chose.
Mais alors, non, après, menteur...
Pinocchio, c'était...
Pinocchio,
menteur, hein,
voilà.
Quand il mentait, il avait le nez qui s'allongeait. Vous dites ça par référence au contact que vous avez dans les municipalités, ou bien vous suggérez que vous avez, avec ces leaders qui dénoncent à la tribune des contacts avec le MoDem, vous, des contacts personnels, François Bayrou ?
Heureusement qu'à l'Assemblée nationale, j'ai des contacts personnels avec les uns et les autres. Et au Sénat, mes amis ont des contacts personnels avec les uns et les autres. Et quand on se croise dans une émission, on parle. Je voudrais que vous entendiez cela. Je n'ai pas d'ennemis héréditaires dans la vie politique française. Il n'y a pas en France des citoyens à qui je refuserais de serrer la main. Il se trouve que dans le champ démocratique français, je considère, peut-être suis-je seul, mais je maintiendrai cette position, que nous avons le droit et le devoir de parler avec tout le monde, parce que les repères du XXe siècle ont disparu au XXIe. Les journaux que vous écrivez ont été pleins de papiers qui expliquaient combien il était habile que Sarkozy doubla sur sa gauche le Parti Socialiste pour aller fabriquer des politiques improbables. Vous avez tous écrit ça avec admiration. Qu'est-ce que vous nous racontez de l'incapacité qu'est-ce que vous nous racontez de l'interdiction qu'il y aurait de parler avec des concitoyens? Je considère que les grandes forces démocratiques du pays sont peuplées de concitoyens avec qui on parle de la vie.
Je voulais faire mon Jean-Michel Apathy et vous citer Vincent Peillon, le 13 novembre dernier. En l'état actuel des choses, il ne peut y avoir d'alliance avec le Modem, puisque le Modem ne sait pas s'il est à gauche ou à droite. Vincent Peillon, proche de Ségolène Royal.
Eh bien, si vous avez la curiosité de fouiller dans les archives du journal Libération, je crois, le vendredi précédant notre université de rentrée, vous trouverez une interview du même Vincent Peillon, dont le titre est « Je suis pour un accord de gouvernement entre le PS et le Modem ». Le même. C'est-à-dire que Vincent Peillon, il pourrait même plus entrer au Stade de France si son nez s'allongeait. Bon, et ils sont tous comme ça à la vérité.
Vincent Peillon, on sait plus trop où on est, mais Vincent Peillon, justement, il travaille avec Ségolène Royal.
Oui, vous voyez.
Il souhaite avoir un accord avec le Modem.
Vous voyez tout ça. tellement, n'est-ce pas? On est tellement dans un dédale et dans un labyrinthe. On est tellement dans le mensonge tactique. Parce que naturellement, tout ça, c'est pas du tout qu'ils le croient. Ils sont uniquement préoccupés de prendre un petit avantage sur une telle ou sur un tel, ou d'équilibrer les choses. Eh bien, je vais vous dire quelque chose de surprenant. Je vous raconte une histoire. J'étais à Nîmes, à laquelle des confrères à vous ont assisté, donc c'est vérifiable. J'étais à Nîmes vendredi, jeudi soir. Et vendredi, dans une visite d'entreprise. J'avais un meeting avec 300 personnes qui étaient là, qui étaient venues parler longuement. On a parlé de tous les aspects de la crise de la société française. Et puis, à la fin, l'un de ceux qui étaient là a dit « Mais enfin, on va pas finir la réunion sans que vous nous disiez un mot du PS et de son congrès. » Il n'a pas pu finir la phrase. Ça a été un chahut de huées comme si les Français n'en pouvaient plus de ces jeux. Alors, moi, je n'en parle pas, je ne condamne pas, parce que je sais très bien que vivre dans un parti, c'est pas simple et facile. Mm-hmm. J'ai une assez sérieuse expérience de ce point de vue-là.
On compatisse un petit peu avec
mais cela dit, si on pouvait éviter les faux-semblants, les postures pinocchiesques, ça serait mieux.
Alors, voilà. Précisément, pour éviter les faux-semblants, vous semblez souhaiter un accord avec les socialistes, vous dites, c'est presque de sécurité, de quelque chose qu'il faut faire absolument.
Un devoir
Est-ce
pour la France.
Un devoir absolu. Est-ce que vous êtes prêt à discuter avec eux d'un programme de gouvernement qui vous amènerait à gauchir sensiblement vos positions, car à Reims, le Parti Socialiste, c'est
Etienne
gauchir.
Moujotte, quel que soit le regret que j'ai de ne pas faire ce plaisir aux journalistes éminents que vous êtes et au journal éminent que vous dirigez, je suis obligé de vous dire que rien n'est plus éloigné de moi que l'idée d'un programme commun type années 70 entre le PC et le PS. Il se trouve que je ne me sens absolument pas dans cette vision-là, parce que je pense que le Parti Socialiste est en phase, je vais employer les mots les plus prudents possibles, est en phase de mutation obligée. Et que tant qu'il n'aura pas accompli cette mutation, il y aura beaucoup de chemin à faire. Je ne suis pas du tout dans cette idée. Je suis dans une autre idée, qui est celle-ci. Si je ne me trompe pas, peut-être je me trompe, auquel cas vous en serez heureux, et je ne doute pas que cela sera commenté et écrit. Si je ne me trompe pas, les Français ne vont pas se reconnaître dans la société qu'on essaie de leur imposer. Les Français vont dire, ça n'est pas cela que nous avions compris dans le contrat que nous avions signé en votant pour Nicolas Sarkozy. Et si les Français pensent cela, alors ils ont la grande échéance politique présidentielle et législative tous les 5 ans pour prononcer leur choix. Et ce jour-là, il y aura un premier tour et un deuxième tour. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a de victoire possible pour changer un projet politique au pouvoir, incarné par un président actif, on ne peut pas dire le contraire, et jeune, on ne peut pas dire le contraire, soutenu par des forces considérables, financières et médiatiques. Ah. Il n'y a de possibilité d'envisager une victoire ce jour-là que si on accepte et on promeut l'idée de rassemblement. Et de rassemblement autour de principes, de projets, d'idées dont je pense que nous allons maintenant parler.
Est-ce qu'on veut dire ce soir, François Bayrou, que vous avez définitivement les deux pieds dans l'opposition et que jusqu'à 2012, vous allez militer pour mettre en forme cette opposition avec les
socialistes. En tout cas, je peux vous dire que, en effet...
C'est Bulnini, là.
En effet, mais je, contrairement à ce que vous croyez, je n'ai jamais prononcé la phrase Nini.
Non, c'est une formule qui...
Jamais.
Qui a un sens.
Je pensais que les solutions proposées par Nicolas Sarkozy et les solutions proposées par le PS n'étaient pas les solutions qui convenaient à la France. Et j'ai tiré les conclusions jusqu'au bout, et vous avouerez qu'elles n'ont pas toutes été faciles. J'ai tiré les conclusions de ce choix. Je n'ai jamais pensé qu'il fallait dire ni-ni. J'ai pensé qu'il fallait dépasser l'affrontement droite-gauche, comme Obama vient de le faire dans son élection aux États-Unis. L'élection de Obama... C'est le courant démocrate mondial auquel je me réfère, y compris dans le nom du mouvement.
Tout le monde en France se réfère à Obama.
Oui, mais tout le monde ne s'appelle pas démocrate dans le nom de
Nicolas Sarkozy, le trop formidable.
Personne n'a fait le choix d'avoir l'adjectif démocrate dans son nom.
D'accord.
Et ce choix, permettez-moi de vous le dire, n'a pas été fait tout à fait par hasard. Il a été fait parce que je pensais que la situation du monde imposait un nouveau projet de société dont le vrai nom est humanisme et dont le nom politique est démocratie. Et c'est ce courant politique-là qui m'intéresse. Donc Obama, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été capable, et McCain l'a essayé d'ailleurs, de dépasser le vieux clivage droite-gauche pour que le pays dans sa majorité s'y reconnaisse. Mais ça, en effet, cette volonté de dépassement des frontières, en effet, elle est la mienne.
Donc, trois questions simples. Alors.
Simple.
Souhaitez-vous, François Bayrou, la victoire de Ségolène Royal à la tête du Parti
Socialiste ? Oh mon Dieu, je me garderai de...
C'est elle qui dit qu'il faut travailler avec vous.
Je me garderai de me prononcer dans la compétition interne au Parti Socialiste. D'abord parce que...
Souhaitez-vous la défaite des sectaires ?
Attendez.
C'est une autre manière de poser
d'abord
la même question ?
D'abord parce que ça n'est pas mon affaire. Et deuxièmement, parce que si j'exprimais un souhait, ça desservirait probablement ceux à l'égard desquels je forme des vœux.
Deuxième question simple. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui est important pour éviter que des choses terribles se passent, c'est un devoir pour la France, avez-vous dit ?
Non, j'ai pas dit terrible, j'ai dit irrémédiable. Essayons de dire...
Les mots précis, d'accord,
les mots précis.
Vous avez raison de me reprendre, c'est qu'en 2012, il y a donc une alternance,
oui.
Si l'on a bien compris.
Oui.
Donc cette alternance, elle ne peut être... Peut-être que vous en serez le maître d'œuvre et l'architecte. Elle ne peut se produire, vous en conviendrez, qu'avec l'appui de la gauche.
Elle ne peut se produire qu'avec le rassemblement de tous ceux qui voudront appuyer sur le bouton « on change ».
Mais donc principalement
les Français auront deux boutons devant eux. Attendez. Les Français auront deux boutons devant eux. Le bouton « on continue » et le bouton « on change ». Dans le bouton « on change », au premier tour, ils auront le choix... Si Dieu
prête vie aux uns et aux autres,
uns et aux autres, ils auront le choix entre un bouton du candidat ou de la candidate PS, du candidat ou de la candidate démocrate. Ils auront ce choix-là.
Mais l'idée, c'est quand même que le PS et le MoDem, à un moment, trouvent un accord.
Mais l'idée, c'est que se rassemblent et se fédèrent tous ceux qui voudront appuyer sur le bouton « on change ». Après, naturellement, je ferai tout ce que je peux pour que tout cela ne ressemble en rien à des accords d'appareil, des négociations autour de tout ce que je peux.
En revanche,
je ferai aussi tout ce que je peux pour que tous les Français, y compris de droite, parce que je pense que gaullistes, par exemple, sont des gens. Il y a une partie de ce courant-là. Qui ne peut pas se reconnaître dans ce qu'on est en train de faire. Et puis d'autres, mes anciens amis de l'UDF, j'imagine que c'est pas parce qu'ils ont prononcé un choix pour l'instant pour aller du côté du pouvoir qu'ils ont perdu toute leur référence.
Et alors, pour
tout cela, j'essaierai de les fédérer.
D'accord. Alors, pour aller au bout du raisonnement, c'était là que je voulais en venir. S'il y a deux boutons en 2012, on continue ou on change. Donc, vous êtes dans le bouton « on change
oui. ».
Donc, vous êtes dans l'opposition au pouvoir.
Suis dans la confrontation avec Nicolas Sarkozy.
L'opposition. Pourquoi vous ne dites pas, François Bayrou,
oui.
je suis dans l'opposition?
Eh bien, écoutez, je suis dans l'opposition à Nicolas Sarkozy. Je crois que tous mes actes et tous mes choix, mais je suis dans une opposition particulière qui est capable de dire oui quand ça va bien. Par exemple, ou quand ça va pas trop mal. Ou quand les choix sont cruciaux pour le pays. Par exemple, j'ai voté le plan de sauvetage du système financier international, alors que le PS était incapable de faire autre chose que de s'abstenir, ce qui, entre nous, a jeté une lumière un peu incertaine sur la qualité de ses choix.
Vous voyez, là, vous ne dites pas le fond de votre pensée, mais enfin bon.
Mais
on va faire avec lumière incertaine.
Si, mais enfin bon, je veux dire que c'était ridicule s'abstenir quand il s'agit d'une décision aussi importante que la paix et que la
mais
guerre.
Mais vous êtes dans l'opposition, c'est ça qui est important. Si
oui,
ce jury
fait
situer les uns et les autres,
je suis dans l'opposition au projet de société qu'on est en train de mettre en place
sur des
en France.
Concrètes. Vous parlez de changement. Vous dites, en 2012, il y aura le choix d'appuyer sur un bouton où il y a marqué changement, et puis ceux qui ne voudront pas, ils continueront. Bon, alors très précisément, aujourd'hui, on a une crise financière, une crise bancaire, vous l'avez dit. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat dans ce pays. Il y a des licenciements qui sont liés à une crise financière qui a dégénéré en crise économique. François Bayrou prône le changement, mais très concrètement, expliquez-nous ce que vous feriez à la place de Nicolas Sarkozy en termes de pouvoir d'achat. Est-ce que vous êtes prêt à interdire les licenciements, comme le disent les plus forcenés à gauche au Parti Socialiste? Quelles sont vos solutions concrètes pour que les Français aient envie d'appuyer sur ce bouton que vous appelez celui du changement en 2012?
La première chose, c'est que je pense qu'il faut revenir sur sur le plan que le gouvernement a mis en œuvre quand il est arrivé au pouvoir, notamment en instaurant un bouclier fiscal dont la conséquence la plus claire est que tout le monde est appelé à participer à la solidarité dans le pays, sauf les plus fortunés.
Oui, mais alors c'est pas le bouclier fiscal, François Bayrou, qui évite à la France d'être en récession.
Le bouclier fiscal, c'est une position de principe qui dit que l'État ne prendra pas plus d'un euro sur deux.
Oui, eh bien, moi je vous dis.
C'est vraiment hérétique de dire ça.
Moi je vous dis qu'il est en effet scandaleux quand on fait le RSA, mais vous pouvez l'approuver.
Non, le bouclier fiscal.
Mais moi pas.
La position philosophique. L'État a le droit de prendre sans limite de l'argent contribuable.
L'idée est que, dans une démocratie, ça doit même être dans la Déclaration des droits. Dans un pays, il faut que chacun contribue à proportion de ses facultés.
Oui, et un euro sur deux, c'est pas à proportion de ses facultés.
À proportion de ses facultés. C'est-à-dire, si vous n'avez pas grand-chose, vous devez contribuer peu.
Oui.
Si vous avez beaucoup,
vous devez contribuer
beaucoup. Et le fait que pour le RSA, on ait inventé un système qui fait que toutes les classes moyennes sont appelées à participer à cette solidarité, sauf ceux qui sont les plus fortunés, parce que déjà atteints par le récit fiscal,
c'est quelque chose
que je trouve pas normal.
Est-ce qu'elle ne le doit pas à son bouclier fiscal, alors que d'autres ont basculé?
Le paquet fiscal et bouclier fiscal.
Le paquet fiscal.
Voilà. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, il faut revenir sur cette idée. Pourquoi? Pour donner des marges de manœuvre, en direction de ceux qui en a le plus besoin, et notamment, en effet, de la création d'emplois dans l'entreprise. Vous souviendrez que j'ai défendu pendant la campagne présidentielle l'idée que ces marges de manœuvre disponibles, il fallait les concentrer sur la possibilité pour chaque entreprise française de créer deux emplois sans cotisation sociale, sans charge. Que on pouvait ainsi faire dégeler un réservoir d'emplois qui pour l'instant n'était pas bloqué, et le faire avec des possibilités de gains de pouvoir d'achat importants.
Mais aujourd'hui, cette mesure n'aurait pas été efficace, parce que pour qu'elle soit efficace, il faut que les entreprises aient les carnets de commandes pour embaucher.
C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire que les heures supplémentaires, c'était pas un bon choix. C'est ça que vous êtes en train de me dire.
Non, mais moi, ce qui m'étonne, François Bayrou.
Non,
vous êtes un peu gêné, je comprends.
C'est
exactement la conséquence de votre déclaration.
Des allégements fiscaux pour créer des emplois, s'il n'y a pas de carnet de commandes d'entreprise, allégements fiscaux ou pas, l'entreprise ne crée pas d'emplois. Bah, vous savez bien.
Il se trouve
ou alors c'est une économiste socialiste.
Non, il se trouve que ce que je pense, c'est qu'il y a un grand nombre d'entreprises petites, quelquefois toutes petites, ou moyennes, qui aurait besoin, ne serait-ce que pour décrocher une commande, qui aurait besoin d'avoir un emploi de plus et qui ne peuvent pas le créer en raison du poids qui repose sur leurs épaules. C'est en tout cas ce que je défendais au moment de l'élection présidentielle et beaucoup pensaient dans ces entreprises que c'était juste.
On va revenir sur ce sujet-là,
c'est
très important, mais avouez qu'à la question générale, que faut-il faire face à cette crise mondiale qui nous assaille, vous répondiez, il faut simplement...
Excusez-moi, on ne m'a pas posé la question de la crise mondiale, non.
Eh ben
non, monsieur Bougeotte. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette crise mondiale?
Absolument.
Premièrement,
deux minutes avant la coupure, donc vous voyez...
Premièrement, il ne faut pas raconter, si on peut, des histoires comme on vient de le faire à propos, dans la préparation du fameux G20, en disant qu'on allait refonder le capitalisme mondial. Si l'on pense comme moi, que le capitalisme ne se refondera pas parce que le capitalisme, il est ce qu'il est. Il a sa logique interne. Et que notamment, le capitalisme financier fait partie du capitalisme. Il y a une chose qui est essentielle, c'est qu'on construise les outils qui permettent d'édicter des règles et de faire respecter ces règles par un système financier qui n'a pas envie de le faire. On vient de refuser de faire ça au G20. Puisque il y avait des propositions que je soutenais depuis longtemps, qui étaient l'idée que le FMI, par exemple, se voit doté de ce pouvoir ou de cette injonction. Fixez des règles et faites-les respecter. On a refusé de le faire. Deuxièmement.
Bon, peut-être les États-Unis.
Peut-être.
C'est pas la France.
Mais je ne parle pas de la France. Là, je parle de. D'accord. On m'interroge sur l'international. Deuxièmement.
Il me semble d'ailleurs que c'était une demande de la France.
Hein, deuxièmement, il y a une chose dont je suis depuis longtemps certains partisans et défenseurs, c'est l'idée qu'on prenne des décisions opératoires dans le domaine des paradis fiscaux. Parce que les paradis fiscaux permettent évidemment d'échapper à ces règles-là. Il y a une décision opératoire simple à prendre, courageuse. Pas facile, mais qu'au moins on la formule, et que ce soit la France qui la formule. Je la propose. C'est l'idée que les États démocratiques ne reconnaissent plus les contrats passés dans les paradis fiscaux. Et à l'instant même, vous vous trouvez devant des conséquences dont vous voyez qu'elles entraînent le fait que on va aller passer des contrats ailleurs.
La France pourrait faire seule, par exemple?
Non, la France pourrait au moins proposer des mesures de cet ordre. Et troisièmement, si l'on veut avoir une politique sérieuse en matière fiscale, dont dépend beaucoup la redistribution, alors il faut qu'il y ait une Europe fiscale. Et ça va être, selon moi, un des enjeux des élections européennes qui viennent, que de voir au moins un mouvement politique défendre l'idée que on doit bâtir des règles de fiscalité auxquelles adhéreront tous les pays, y compris, ou d'abord, à commencer par les pays de la zone euro.
Voilà quelques propositions de François Bayrou pour tenter de résoudre la crise mondiale. On écoute les informations et on se retrouve tout de suite après.